France Inter. Nicolas Demorand. Le 7-9.
Et nous sommes le vendredi 25 octobre. Bonjour à tous et bienvenue sur l'Inter. Agnès Soubiran, bonjour.
Bonjour.
À la une de l'actualité ce matin, en Bolivie, Evo Morales, officiellement réélu au premier tour de l'élection présidentielle pour un quatrième mandat très contesté par son adversaire. Et dans la rue, la communauté internationale demandait l'organisation d'un second tour. On voit ça, Agnès, après les autres titres.
Des élections générales contre un report du Brexit, c'est le deal de Boris Johnson. Un franco-marocain déchu de sa nationalité française après avoir tenté de partir en Syrie. Édouard Philippe ce matin au chevet des commerçants de Rouen, un mois après l'incendie de Lubrizol. Un casque, une vitesse limitée, pas d'écouteurs, les règles strictes pour les trottinettes parues aujourd'hui au journal officiel. Et puis un nouvel auteur à la Pléiade, un indice Nicolas, Michel Houellebecq aurait aimé l'avoir pour ami.
Je vois à peu près les invités de France Inter ce matin à 7h50, le réalisateur Costa Gavras, qui présentera son film Adults in the Room à Ali Badou tout à l'heure. À 8h20, le grand entretien de la matinale avec Michel Desmurger. Il est l'auteur de La fabrique du crétin digital. C'est aux éditions du Seuil et ça décoiffe. Vos questions 01 45 24 7000.
France Inter.
Les États-Unis, l'Union européenne, le Brésil, l'Argentine, la Colombie demandent ce matin l'organisation d'un second tour en Bolivie si l'organisation des États américains ne confirme pas le résultat du premier tour. Résultat annoncé donc officiellement hier soir. Le président sortant Evo Morales aurait obtenu au premier tour 47% des suffrages contre 36,5% pour son opposant centriste Carlos Mesa, soit un écart supérieur à 10 points qui permet à Evo Morales de s'imposer comme le prévoit la loi électorale bolivienne. Depuis le début de la semaine, les manifestations se succèdent pour dénoncer les irrégularités de ce décompte. Alice Campagnol était hier soir aux côtés des manifestants à La Paz. Reportage.
Quatrième jour de mobilisation dans les rues de La Paz. Hier soir, ils étaient des dizaines de milliers à crier « Evo, encore une fois, certainement pas ». Pour les manifestants, c'est impossible. Evo n'a pas pu gagner dès le premier tour.
C'est une fraude, c'est sûr à 100%. Le minimum que devrait faire Evo maintenant, c'est d'accepter un second tour.
Carlos Mesa, le principal candidat d'opposition, s'est exprimé dans la soirée sur les réseaux sociaux.
Je veux vous dire tout d'abord de ne pas baisser les bras. Ensuite, de rester en action. Et enfin, que je suis avec vous. Ces manifestations pacifiques et démocratiques ne doivent pas cesser.
Si l'appel à la mobilisation est pacifique, l'ambiance, elle, est électrique. Les manifestants veulent en découdre. On entend souvent crier « pas de violence », mais beaucoup ne voient pas d'autres alternatives.
Je ne crois pas que des mesures pacifiques puissent être efficaces. Ce n'est pas comme ça qu'on obtiendra du changement. Je crois que je ne suis pas le seul à vouloir recourir à la violence.
Et il y a bien eu des heurts avec les forces de l'ordre en fin de soirée ici à La Paz. Quant à la ville de Santa Cruz, bastion de l'opposition, elle entame aujourd'hui son troisième jour de grève générale. La Paz, Alice Campagnol, France Inter.
Au Chili voisin, l'ONU envoie une mission pour enquêter sur de possibles violations des droits de l'homme. Depuis une semaine, 20 000 militaires et policiers sont déployés dans le pays, placés en état d'urgence. 18 personnes ont été tuées lors des manifestations et 584 blessés. 50 000 personnes évacuées en Californie en raison de plusieurs incendies violents qui ont déjà ravagé des milliers d'hectares. Le plus important touche la région viticole située au nord de San Francisco. Plusieurs maisons auraient été détruites. Une fois encore, les lignes électriques à haute tension sont montrées du doigt. Un incident aurait été signalé quelques minutes avant le départ des flammes, selon les médias locaux. Et puis le donnant-donnant de Boris Johnson, à 6 jours de la date officielle du Brexit, le Premier ministre serait prêt à accepter un report à condition que des élections générales soient organisées le 12 décembre. Boris Johnson qui essaie donc de convaincre les élus travaillistes.
Le seul moyen pour que ce soit fait, pour qu'on parvienne au Brexit, c'est d'être, à mon avis, raisonnable avec le Parlement. Si les députés veulent sincèrement plus de temps pour étudier cet excellent accord, qu'ils le prennent. Mais ils doivent accepter une élection générale le 12 décembre. C'est le meilleur moyen d'avancer parce que ce Parlement est en place depuis longtemps, sans majorité, et il refuse d'entériner le Brexit, de faire passer des lois. Honnêtement, c'est le moment pour les députés de l'opposition d'avoir du courage et d'accepter de se soumettre à la décision de notre patron à tous, le peuple.
Les travaillistes qui disent ce matin attendre la décision de l'Union européenne, les 27 doivent décider dans les tout prochains jours de la durée de ce report. Berlin propose 3 mois jusqu'à janvier 2020. La France plaide de son côté pour un report technique plus court.
Il est 7h05, Agnès, un jeune franco-marocain déchu de sa nationalité française.
Faïsal Aït Messoud avait tenté de rejoindre la Syrie quelques jours seulement après l'attaque contre Charlie Hebdo. Condamné à 4 ans de prison, il vient donc de perdre sa nationalité française. Une procédure, Mathieu Mondoloni, assez peu utilisée.
C'est la 16e fois depuis 2002 qu'une personne est ainsi déchue de sa nationalité française.
Ça n'arrive pas si souvent que cela.
Et la plupart du temps, les raisons sont les mêmes, explique Jules Lepoutre. Il est professeur à l'université de Nice, Sophia Antipolis, et spécialiste du droit de la nationalité.
C'est quasiment exclusivement des Français qui ont été condamnés pour association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte terroriste. Donc ce sont toujours des Français dits par acquisition, c'est-à-dire des Français qui ont obtenu la nationalité après leur naissance et pas ce que le code appelle les Français par attribution qui sont les Français de naissance.
Cette décision est prise par le gouvernement après avis du Conseil d'État. C'est une mesure administrative donc qui en général est suivie d'une expulsion du territoire. Aucun juge n'est consulté ni d'ailleurs l'autre pays de la personne déchue.
Le problème de ces mesures de bannissement c'est qu'elles sont très unilatérales. Elles ne sont pas prises dans le cadre d'une concertation internationale. Le but c'est de, entre guillemets, se débarrasser d'un individu qu'on considère gênant sur son territoire. Et c'est souvent pour ça que la France et d'autres pays procèdent à des déchéances de nationalité pour renvoyer vers l'état d'origine de la personne en question.
Des pays qui voient en général d'un très mauvais œil l'arrivée sur leur territoire de ces ressortissants condamnés en France pour des faits de terrorisme.
Pour la première fois depuis l'incident au Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, Emmanuel Macron prend la parole. Le port du voile dans l'espace public n'est pas mon affaire, a dit le chef de l'État au deuxième jour de sa visite à La Réunion. Nous l'entendrons dans le journal de 8h. Emmanuel Macron qui a annoncé plusieurs mesures pour relancer l'activité dans l'île, une enveloppe de 700 millions d'euros sur 3 ans. Pour développer notamment les emplois francs. Édouard Philippe est lui attendu à Rouen ce matin, près d'un mois après l'incendie de l'usine Lubrizol. Alors qu'il est enquête n'a pas encore permis de déterminer d'où est parti l'incendie. Mais la visite du Premier ministre aujourd'hui est consacrée à la signature de conventions d'indemnisation avec les agriculteurs, les commerçants et les entreprises qui ont subi de plein fouet les conséquences de cet incendie. La perte de chiffre d'affaires est estimée à 1 million d'euros. Vincent Lauda est le président de la CCI de Rouen Métropole.
Le Premier ministre, comme les services de la préfecture et les services de la Chambre de commerce, appuie sur l'urgence, en effet, de ces indemnisations, sur la perte de chiffre d'affaires, sur la marge, pour que les commerces de centre-ville qui maintenant vont être dans les phases d'achat de leur stock pour les fêtes de Noël puissent avoir un petit coup de main sur leur trésorerie. Après les travaux au cœur de Métropole, après les Gilets jaunes, Lubrizol est un petit peu le coup de trop. Et donc oui, c'est quelque chose d'important de pouvoir avoir, comme pour le monde paysans, une enveloppe qui puisse être mise à disposition et en dédommagement de cette perte d'activité. Et après ça, on parlera de la perte d'image de notre métropole de façon générale. Mais là, en effet, il faut quelque chose de rapide.
Le président de la CCI de Rouen Métropole, interrogé par Nomé Hilaire de France Bleu Normandie. L'Assemblée nationale en guerre contre les prémix à base de vin. À l'occasion de l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale, les députés ont voté hier un amendement visant à taxer ces mélanges vin-jus de fruits type rosé pamplemousse. Le but est de dissuader les plus jeunes d'en consommer, eux qui sont justement, Solène Lehen, les principales cibles des fabricants.
Le rosé pamplemousse, c'était encore cet été l'un des produits tendance. Un mélange de jus ou de sirop de pamplemousse et de vin rosé qui séduit de nouveaux publics, pas forcément adeptes du vin à l'origine, les femmes, les adolescents et les jeunes adultes. En clair, le rosé pamplemousse, le rosé sucette, le rouge fraise ou le blanc pêche, c'est-à-dire des mélanges de sucré et en général de vin bas de gamme, c'est une porte d'entrée vers la consommation d'alcool. L'alcool qui tue chaque année 40 000 personnes en France, rappelle les autorités sanitaires, d'où cette taxe. Et puis sur le plan fiscal, le vin est déjà taxé, les prémix aussi, sauf ceux à base de vin. Il y avait donc jusque-là une incohérence. Taxer le vin, c'est toujours une question sensible dans un pays où il représente un important secteur économique. Finalement, la taxe sur les prémix à base de vin sera modeste, 3 euros par décilitre d'alcool. Les députés de La République En Marche ajoutent que de toute façon, cette nouvelle taxe aura peu d'impact sur nos producteurs. La majorité des vins utilisés dans ces prémix viennent de l'étranger.
Les députés ont également voté en faveur d'un nouveau mode de financement des urgences en répartissant notamment les dotations en fonction de la population sur le territoire concerné. Disposition accueillie favorablement par l'opposition mais considérée comme insuffisante pour répondre à la crise des urgences. Les députés ont également validé la reconduction de la prime exceptionnelle autorisée par Emmanuel Macron l'an dernier en pleine crise des Gilets jaunes. 5,5 millions de salariés en ont bénéficié. Montant moyen 400 euros exonérés de cotisations sociales et de prélèvements fiscaux.
Je roule, tu roules, elle roule à trottinette.
Oui, mais nous ne roulons pas à trottinette, car il est désormais officiellement interdit d'être à deux sur cet engin qui a envahi les grandes villes. Le décret encadrant la pratique des trottinettes paraît aujourd'hui au Journal officiel. Le détail avec Alexandre Fremont.
Vous pourrez rouler jusqu'à 25 km/h, c'est la vitesse maximum autorisée. Si vous roulez plus vite, vous risquez une amende de 1500 euros. Terminez également la circulation sur les trottoirs. Il faudra désormais rouler sur une piste cyclable ou sur la route, sinon ça vous coûtera 35 euros d'amende. Mais chaque maire pourra faire des exceptions dans sa ville. Il faut être âgé au moins de 12 ans si vous voulez utiliser une trottinette et surtout être seul sur l'engin. Sinon, là aussi, ça vous coûtera 35 euros d'amende. Vous pourrez vous garer sur les trottoirs, mais à condition de ne pas gêner les piétons, c'est ce que dit le décret. C'est d'ailleurs un point de friction avec la mairie de Paris qui a d'ores et déjà pris cet été un arrêté plus contraignant que le décret. Anne Hidalgo a banni le stationnement des trottinettes électriques sur ses trottoirs et limité les engins en libre-service à 20 km/h et aux plus de 18 ans. Enfin, interdit de rouler avec vos écouteurs où vous serez sujet à une amende de 35 euros.
Enfin, c'est donc l'un des écrivains préférés de Michel Houellebecq, peut-être pour son anticonformisme. Joris Karl-Huysmans fait son entrée dans la collection de la Pléiade, gratte-papier dans un ministère durant plus de 30 ans. Huysmans, proche de Zola à ses débuts, est l'auteur d'une œuvre détestée par les critiques conservateurs de son époque. Ilana Mourioussef.
Dans Soumission de Michel Houellebecq, le personnage principal est un universitaire spécialiste de Huysmans. Dans leur lumineuse préface à ce volume de la Pléiade, André Guyot et Pierre Jourde évoquent ce qui rapproche Huysmans et Houellebecq. Pierre Jourde.
Un certain goût pour l'humour noir. Huysmans, c'est un grand écrivain de l'humour noir, il est parfois très drôle, c'est d'ailleurs, je crois que c'est lui qui a inventé l'expression « humour noir ». Et puis, ce sont des gens qui sont profondément négatifs, pessimistes, qui passent en revue le monde dans tous ses aspects les plus noirs. Ce sont deux grands désespérés.
Chez Huysmans, le héros de Avolo est un bureaucrate accablé par la médiocrité de la vie quotidienne. Celui de À rebours, des Essintes, dit son dégoût du triomphe de la bourgeoisie. Huysmans, à lire pour nous secouer de cette époque tiédasse, insiste Pierre Jourde.
C'est un écrivain très violent, qui exprime des opinions parfois radicales sur la société, sur la religion, sur les femmes, mais ça c'est un trait de son époque. Il faut le lire justement à cause de ça. Il faut le lire parce que on n'a plus l'habitude de cette force d'expression dans la littérature, de cette puissance de style.
Même son catholicisme était un catholicisme radical, anti-bourgeois et aussi incroyable que ça puisse paraître. Pro-avortement.
Huysmans, romans et nouvelles, donc dans la collection de la Pléiade aux éditions Gallimard.
Merci Agnès Soubiran. Dans 3 minutes, secret d'info dans les arrières-cuisines d'Elior, numéro 1 français de la restauration collective. D'ici là, premier point route, Emeline Ferry, bonjour.
Bonjour.
Emeline, toujours très compliquée sur la 15.
Oui, à cause d'un grave accident qui a eu lieu tôt ce matin. La 15 était coupée entre Cergy-Pontoise et Gennevilliers. Elle vient tout juste de rouvrir, mais il y a encore de gros ralentissements. On vous conseille d'éviter ce secteur. Vous pouvez prendre la Francilienne et la 1 pour rejoindre la capitale. Sinon, ça commence à se charger tout doucement sur les axes autour de Paris, notamment sur la 3, la 4 et la 6. En région, un gros bouchon dans le Pas-de-Calais à cause d'un accident sur la 1 en direction de Paris. Vous perdez 1h15 au niveau d'Avelin, juste après l'aéroport de Lille. C'est compliqué aussi dans l'autre sens.